Et oui, vous avez reconnu le générique de Vendredi Théâtre. Il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andriy Gavrilov au piano. Alors, je suis avec l'équipe de Vendredi Théâtre. Je suis avec l'inénarrable Tito Livio. Bonjour, Tito.
Bonjour.
Et je suis avec la belle Grazia. Bonjour, Grazia.
Bonjour.
Alors, nous allons parler donc de la formation de l'acteur à Montpellier. Donc, j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Richard Mitou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'École nationale supérieure d'art dramatique Maison Louis Jouvet à Montpellier.
Ouais.
Voilà, je ne me suis pas trompé.
C'est exactement ça.
Et je suis également avec Philippe Goudard, qui est au département art du spectacle à Paul Valéry. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je disais donc, nous allons parler de la formation de l'acteur à Montpellier. C'est vrai qu'on fait des émissions de temps en temps qui sont un petit peu en dehors de l'actualité stricto sensu théâtrale et qu'on parle un petit peu des métiers en rapport avec le théâtre. On avait reçu des directeurs de théâtre il y a quelques mois. On avait reçu aussi des techniciens il y a quelques mois pour parler de ces métiers-là. Et là, aujourd'hui, nous allons parler de la formation de l'acteur. Alors, je vais me tourner tout de suite vers Richard Mitou. On va commencer par vous. D'habitude, on vous reçoit en tant que comédien, on vous reçoit comme metteur en scène. Et aujourd'hui, on vous reçoit comme donc directeur de la maison Louis Jouvet. C'est une nomination récente.
Oui, oui, bah je suis directeur après le départ volontaire d'Ariel Garcia Valdez, qui était directeur de cette école jusqu'au 31 décembre, et donc je suis arrivé le 1er janvier.
Il avait été nommé en 98, si je ne me trompe pas.
C'est ça, exactement. Exactement.
Et alors, comment ça se passe, vos prises de fonction?
Ah, c'est passionnant, très bien. Je dois vous avouer quand même que j'ai pris, comme disent les politiques, que j'ai découvert, j'ai mûrement réfléchi ma décision avant de postuler, parce que ça ne s'est pas fait comme ça. On a été une shortlist, il y a une vingtaine de candidats, une lettre de motivation, un projet écrit pour l'école, puis un grand oral. Voilà, et à l'issue duquel donc j'ai été nommé par la ministre et le président de l'agglomération, puisque ce sont les deux qui aident financièrement à l'école. Donc c'est une école qui est soutenue financièrement par le ministère de la Culture et par l'agglomération de Montpellier. Écoutez, depuis le 1er janvier, la découverte du milieu culturel, moi qui étais vraiment un artiste comédien metteur en scène et qui n'ai jamais eu de compagnie, même si j'ai participé à des créations de compagnie, mais j'avais jamais travaillé sur des budgets, des projets. Les deux mois, puisque j'étais nommé le 19 octobre, je crois, vers là, peut-être pas cette date précise, mais fin mi-octobre. Et puis donc j'ai eu deux mois pour découvrir un peu ce que le paysage culturel et politique. Voilà.
Donc ces deux mois
ont été un peu plus difficiles que ceux qui viennent de débuter depuis le 1er janvier, où là j'ai enfin respiré profondément et rencontré des artistes, rencontré un peu mieux les élèves comédiens que je connaissais déjà puisque je faisais partie du jury. Je suis pas arrivé dans cette école, c'est une école d'où je viens.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Voilà, 94-97, j'étais élève à l'époque, ça s'appelait le Conservatoire National de Région, dirigé par Michel Touraille, et puis après, de 98 à maintenant, j'ai fait mon chemin d'acteur et de metteur en scène. J'ai suivi dans un premier temps Jacques Nichet à Toulouse, à la construction du Théâtre National de Toulouse, et puis après j'ai travaillé avec divers metteurs en scène, donc j'étais vraiment comédien metteur en scène. Donc, revenir dans cette école, mais où je suis intervenu comme artiste intervenant, comme en faisant des spectacles au Printemps des Comédiens les deux dernières années. Donc je connais très bien l'école, ce qui était...
Ce
qui était super, ouais. Et donc comme j'ai fait partie du jury, etc. Donc depuis 1er janvier, tout va très bien. J'ai appris à connaître mes partenaires, c'est important, et à essayer de faire un travail constructif pour l'avenir, puisqu'on est dans une période, il me semble, où les choix qui vont être faits là, sur la formation de l'acteur, sur la création en France, sur l'accompagnement des artistes, vont être assez cruciaux pour l'avenir. Donc, j'ai des rendez-vous multiples avec les partenaires et je vais voir le ministère là, dans deux semaines. Il peut y avoir de mauvais choix de fait, hein, je sais pas, après je suis prêt à débattre, mais il faut être très sensible à ce qui est en train de se dessiner sur l'avenir de la création artistique et de la formation, puisqu'on est dans un moment où Philippe tout à l'heure me disait en off, Philippe Goudard me disait, on est encore sur des schémas de l'après-guerre. Donc il y a une petite révolution, une révolution j'espère de velours à accomplir sur l'accompagnement des artistes aujourd'hui. Donc on mis à part disons le fonctionnement de l'école, vu qu'on est une des 10 écoles nationales de France.
On va peut-être présenter plus avant l'école.
Bien sûr, après on parlera de
pour situer un peu
plus
cadre.
Tard. Hein, voilà. Tout à fait. Allez-y, je vous en prie.
Alors l'école existe donc depuis 82.
Michel Touraille était directeur de ce qu'on appelle dans les conservatoires les classes d'initiation au théâtre, ouvertes à des gens majeurs qui font une dizaine, une vingtaine d'heures de cours du soir. Et le ministère, en 81, a décidé d'ouvrir des sections professionnelles en province, puisque... voilà, mais il y en avait peut-être déjà dans les conservatoires nationaux de région, de Bordeaux. Et donc, Michel Touraille était inspecté. Il y avait Marseille, les inspecteurs du ministère. Marseille, Montpellier, Toulouse. Et puis, c'est Montpellier qui a été choisi. Donc, le travail de Michel Touraille. Et donc, a été créé en 82, cette section professionnelle d'art dramatique. Voilà, donc l'école, effectivement, maintenant, combien ? Et elle est devenue peu à peu. Donc Michel Touraille est resté à la direction jusqu'en 98, hein, donc 16 ans.
Date à laquelle arrive...
Ariel Garcia Valdez est arrivé. Il a construit la maison Louis Jouvet. C'est-à-dire, il a sorti l'école du conservatoire. Parce qu'effectivement, il y avait une cohabitation qui était assez rigolote, mais avec des danseurs et des musiciens de tout jeune âge. Et donc on avait demandé au directeur de l'époque, M. Garcia, d'avoir une aile du bâtiment à part entière, parce que on était un peu le théâtre est parfois un peu la brebis galeuse du conservatoire. C'est-à-dire il y a les musiciens, les danseurs, et le théâtre c'est un peu des gens étranges, c'est un art étrange pratiqué par d'étranges animaux. Donc à 18h on faisait le double des clés, on allait répéter en cachette, on essayait d'aller à Castelnau dans une autre salle parce qu'on n'avait pas les moyens de travailler tard. À 18h il fallait fermer. Donc Ariel Garcia Valdez en 98 a accepté le poste en disant mais je veux un lieu totalement dévoué à l'art dramatique. Donc avec l'accord de l'agglomération et de Georges Frêche, il a réhabilité un bâtiment qui s'appelle qui est une œuvre du prêt gratuit, c'est un archevêque Louis Beaufet qui avait fait ce bâtiment où étaient accueillis des gens pour dormir un peu gratuitement, etc. C'est une œuvre du prêt gratuit de l'archevêché au 17e. Qui était devenu un peu un squat, artistique au départ, puis finalement, qui a eu une vie après beaucoup plus dure. Donc, il y a eu un incendie. Et donc, sur ces fondations-là, a été bâtie la maison Louis Jouvet, qui a ouvert en 2003, voilà, sous la direction
de... Les premiers cours, c'est en 2003, les premiers cours à la maison Louis Jouvet.
Dans la maison Louis Jouvet, octobre 2003. Et puis en 2002, l'école a signé une plateforme des écoles nationales à un fonds d'insertion qui aide à la création, à l'accompagnement de production pour l'insertion professionnelle des élèves comédiens sortant de l'école. Et puis en 2008, elle est devenue renommée École nationale supérieure d'art dramatique. Et donc depuis le 1er janvier 2013, moi j'ai voulu, parce que c'est l'ENSAD, alors il y a l'ESSAD à Paris, et l'ENSAD c'est aussi l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Donc j'ai voulu redonner le nom du bâtiment, parce que je pense qu'il faut d'abord, le théâtre ça se fait déjà dans un lieu.
Absolument.
Donc c'est l'école, je l'ai renommée, j'ai juste changé l'ordre, hein, j'ai dit c'est la maison Louis Jouvet, École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier, qui accueille aussi en son sein la classe d'initiation du conservatoire à rayonnement régional. Voilà.
Donc il y a une classe d'initiation et une classe professionnelle.
Exactement.
Voilà. Et il y a combien d'étudiants? Alors, dans chaque...
La classe d'initiation, c'est 40 élèves, c'est 2 années, qui correspondent dans le jargon de l'initiation au théâtre à un cycle 3 ou un CEPIT. Bon, ça c'est un peu compliqué, mais c'est-à-dire que c'est quand même... 16 à 20 heures de cours du soir. Donc on a des gens de la faculté d'ailleurs qui sont en licence en art du spectacle, enfin qui sont en art du spectacle, au département art du spectacle. Il y en a qui sont dans la vie active. Il faut être majeur. C'est aussi entre 18 et 27 ans ici. Et ce sont des cours du soir. En appoint pour ceux qui veulent faire un peu plus de plateau, qui sont à l'université, qui ont envie de... Donc ça se fait sur concours aussi, 40 élèves, et les professionnels, vu qu'on travaille, les concours sont une année sur deux, il y en aura un en juin là, c'est une promotion fait entre 12 et 10 et 14 élèves on va dire, donc c'est une année sur deux 14 élèves, une année sur deux 28, l'année prochaine il y aura 28 professionnels et 40 en section d'initiation.
Et donc vous êtes en partenariat avec l'université Paul Valéry, avec le département art du spectacle dont vous faites partie, Philippe.
Oui.
Je vais peut-être vous laisser présenter un petit peu le département, comme ça on aura bien débroussaillé.
Voilà, alors le département art du spectacle de Montpellier comporte deux filière, si l'on veut, une filière qui s'occupe du cinéma et de l'audiovisuel et maintenant du multimédia aussi, mmh. et puis une filière théâtre et spectacle vivant. Alors c'est un département qui a été créé par Gérard Liébert, un éminent professeur français de théâtre, un grand connaisseur, un grand quelqu'un qui aime beaucoup les artistes aussi, mmh. Et ça compte beaucoup, je crois, quand on veut se préoccuper d'études plus théoriques sur les arts, c'est il faut aimer les artistes. Et donc il a créé ce département, et c'est quelqu'un qui venait de l'école normale au départ, qui est dramaturge également. Il a, pendant le mandat de Jacques Nichet au Centre Dramatique National, beaucoup travaillé avec Jacques. Et donc ce département de théâtre s'est ouvert aux arts visuels, aux spectacles enregistrés, mmh. Cinématographiques. Et puis on a aussi des collègues en musicologie. Et donc, mais qui ne font pas partie techniquement pour le moment du même département que nous, mais avec qui on travaille dans la recherche d'une façon en étroite collaboration. Alors, on accueille donc dans la partie théâtre et spectacle vivant à peu près 250 étudiants dans un cycle d'enseignement qui comporte une licence, un master et puis des étudiants en doctorat, puisque depuis 91 en Europe nous sommes dans le système dit LMD, licence master doctorat, après qui a été décidé à Bologne et qui délivre donc ces diplômes universitaires reconnus partout en Europe et qui ont des équivalents dans le monde. Alors je parlerai plus spécifiquement du spectacle vivant, même absolument. Si encore une fois je côtoie bien et avec grand plaisir mes collègues de cinéma et d'audiovisuel. Donc nous, notre but est double. On a d'une part une formation culturelle d'étudiants qui le souhaitent, puisqu'en France on rentre à l'université après le bac sans concours. Hein, voilà, rentre qui veut. La première année est en général une année de réflexion, de réorientation, de décantation pour les étudiants. Sur 100 inscrits, on en retrouve environ 50 en seconde année, essentiellement des filles, en ce 8 mars, c'est important de le souligner, une grande majorité de filles. Voilà, donc c'est une formation culturelle qui ne prétend pas former à ce stade de la licence des professionnels. Nous avons des cursus, des diplômes qui sont des formations professionnelles que je pourrais vous énumérer à l'instant. Ensuite, on accueille des étudiants venant de France et de l'étranger parce que le système Erasmus permet maintenant aux étudiants de se déplacer. Moi, quand j'étais jeune étudiant, il y a très longtemps, que j'étais à Nancy et que j'ai voulu venir m'inscrire à Montpellier, ce n'était pas possible. Maintenant, oui. On peut tous les 6 mois changer de pays et ça, c'est vraiment formidable parce que c'est une solution d'avenir que ce brassage culturel et linguistique et de faire se rencontrer les gens. Voilà. Alors, la licence, c'est cela, une formation culturelle dans le domaine du spectacle vivant, une formation à l'histoire du spectacle, c'est très important, à la dramaturgie, à l'analyse de spectacle, dans des domaines aussi variés que le théâtre, évidemment, mais aussi la danse, les arts de la marionnette, le cirque. Moi, mon domaine de recherche, c'est le cirque, parce que je l'ai pratiqué pendant 30 ans. Comme professionnel. Et puis ensuite, nous avons le master. Alors les masters sont soit des masters de recherche, où on a donc une formation professionnelle de jeunes chercheurs et chercheuses en 2 ans, qui peut, et ça c'est Gérard Liébert qui a inauguré ça d'une façon très, très intelligente, évidemment, très positive, c'est qu'on peut aussi consacrer une partie de son master de recherche à s'exercer à créer un spectacle. Dans des conditions qui ressemblent aux conditions professionnelles, mais sans le risque du métier, puisque c'est un milieu protégé du statut d'étudiant. Gérard et à l'époque Jean-Claude Loubière, qui était conseiller théâtre à la DRAC, avait réussi à faire bâtir au sein même de l'université un théâtre. On a un théâtre, le théâtre La Vignette, qui a
très beau théâtre.
Sa programmation, comme tout théâtre, au sein du paysage de la programmation de spectacles dans la région et en France, mais qui est aussi un outil pédagogique puisque nous y avons accès. En ce moment, par exemple, nous sommes avec Daniel Danis, un auteur québécois dont nous montons avec les étudiants de troisième année la pièce « E », qui s'appelle « E ». Et il est là pendant une semaine et demain, nous sommes au théâtre. Donc voilà, on place les étudiants dans un bain culturel, dans un environnement professionnel où ils peuvent à la fois se former intellectuellement, culturellement, et puis approcher des professionnels du spectacle. Donc nous sommes quelques enseignants titulaires, comme on dit, ou professeurs ou maîtres de conférences. Didier Plassard qui vient d'arriver, Gérard Liebert nous a quittés, il est maintenant en retraite, mais nous attendons bientôt quelqu'un d'autre. Moi-même qui suis, comme Didier, professeur, Joël Chambon qui est maître de conférences et auteur et dramaturge également. Et puis nous nous entourons de nombreux chargés de cours qui sont tous des professionnels en exercice, ça aussi on le doit à Gérard, des professionnels de haut niveau, que ce soit en technique de la scène, en jeu, en dramaturgie, en mise en scène, et puis en danse, en cirque, enfin voilà, on a beaucoup d'intervenants qui permettent à ces jeunes gens de se former en licence. Alors ensuite le master, donc j'en ai parlé, et puis nous avons quelques doctorants, ou doctorantes, qui sont des gens qui approfondissent leur métier de chercheur pour passer une thèse d'université, puis peut-être avoir un poste à l'université. Donc notre objectif, c'est proposer à ces jeunes ce qu'on appelait autrefois les humanités dans le monde du spectacle. Et puis, à partir de là, ils ont des orientations extrêmement variées. Alors certains vont préparer les concours des écoles nationales supérieures, il y en a qui rentrent au conservatoire de Montpellier ou au TNS à Strasbourg ou à Paris ou à Lyon en technique ou en jeu. Il y en a qui rentrent dans les circuits de la communication culturelle, donc là il faut faire attention d'en former juste ce qu'il faut, ça on pourra en parler si vous voulez. Et puis, mais on les forme très, évidemment très sérieusement. Et puis on a aussi des gens qui veulent faire autre chose, on a des gens qui rentrent à l'UFM. Je discutais ce matin avec des jeunes filles qui veulent être institutrices et qui trouvent très intéressant ce qu'elles apprennent là, ou des gens qui font tout à fait autre chose, qui s'orientent différemment. Et puis pour terminer, on a donc les masters professionnels ou les licences professionnelles pour apprendre à être administrateur de compagnie ou d'une salle culturelle dans une mairie, d'une petite agglomération de la région ou d'ailleurs. On a des masters de direction artistique de projets culturels, donc ça aussi, ça faut prêter attention à ce genre de choses. On a un master chorégraphique en lien avec le centre chorégraphique. Ce sont des artistes professionnels, jeunes chorégraphes qui viennent du monde entier et qui réfléchissent en même temps qu'ils développent leur langage chorégraphique. Avec Mathilde Monnier, c'est Didier Plassard qui a lancé ça. Et puis, on réfléchit à d'autres masters en essayant de proposer aux jeunes des formations professionnalisantes qui débouchent sur des métiers concrets et surtout qui inventent un avenir.
On va faire une petite respiration musicale et puis on est le 8 mars, donc on va écouter que des dames ce matin et des comédiennes. On va écouter pour commencer Catherine Deneuve, Toi jamais, un extrait de la bande originale du film Huit femmes.
Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent, mais pourtant moi je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi, jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi, jamais. Quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, qu'ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne. Et toi, jamais. Tu as tous les défauts que j'aime et des qualités bien cachées. Tu es un homme et moi je t'aime, et ça ne peut pas s'expliquer. Car un homme, tu n'es qu'un homme comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais.
Catherine Deneuve sur Vendredi Théâtre. Vendredi Théâtre, une émission spéciale consacrée à la formation de l'acteur. Je suis toujours avec Richard Mitou, donc, qui est le directeur de la Maison Louis Jouvet, et Philippe Goudard du département Arts et Spectacles à Paul Valéry. Alors nous parlions donc, nous faisions une petite présentation des deux lieux, des deux endroits où on peut se former au métier d'acteur et au métier d'art du spectacle. Et on disait qu'il y avait un partenariat entre l'université Paul Valéry et la Maison Louis Jouvet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus l'un et l'autre sur ce partenariat ?
Alors tout à l'heure j'ai fait un peu la présentation, j'ai oublié que depuis 2008 effectivement, en rapport avec pour répondre aux accords de Bologne et au LMD, donc licence master doctorat, l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier, la Maison Louis Jouvet, en partenariat avec l'université, donc ça a été monté par Gérard Lébert encore une fois, et des livres... comment dire, il y a un partenariat entre l'école et l'université avec un parcours spécifique comédien professionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, la particularité de notre école, c'est qu'on est dans la pratique. C'est-à-dire que sur les écoles nationales, la grande majorité des enseignements sont pratiques. C'est-à-dire le plateau, voilà, les cours de diction, de danse corporelle, l'expression corporelle pour l'acteur. La formation de l'acteur est très pratique. Mais en partenariat avec l'université, on a des cours de droit, d'histoire du théâtre, d'histoire, droit et sociologie du théâtre.
L'aspect plus théorique, donc, on va dire.
Ben, bien sûr, il y a des cours techniques et théoriques, donc avec un parcours spécifique qui est chaque année revu dans un partenariat qu'on fait, donc avec un enseignement qui est délivré par l'Université de Montpellier, financé par l'école d'ailleurs, pour l'instant. Et ça va se continuer, je pense. Mais sur des horaires beaucoup plus réduits. Hein, pour tenir compte de la formation de l'acteur. Ce qui fait qu'à l'issue des trois années de formation, avec l'Université Paul Valéry, on délivre une licence en art du spectacle, ce qui est une très bonne chose, puisque, encore une fois, on a un taux d'insertion assez important dans les écoles nationales, et particulièrement à Montpellier. Je dois saluer tout le travail qu'a fait Ariel Garcia-Valdez, la qualité d'enseignement des artistes intervenant à l'école, qui sont des artistes en activité. Hein. Mais effectivement, on a quelque chose comme... Je suis en train de le faire, d'ailleurs, sur le site, de remonter jusqu'à la création de la Maison Louis Jouvet en 2002-2003 pour avoir des chiffres, parce que je pense que c'est important, d'insertion professionnelle, de qui continue le métier. Mais c'est quelque chose comme 80%, ce qui est énorme. Mais effectivement, nous, on en a 14 qui rentrent par an. On n'a pas 250 personnes qui veulent être acteurs chaque année. En tout cas, il y en a 500-600 qui se présentent. On en garde 12. Donc, il y a une sélection quand même qui est très... mais ce qui, évidemment, les 20% qui restent, qui ont eu cette formation, qui est quand même, encore une fois, passionnante, parce que l'école du théâtre, c'est aussi une école d'ouverture au monde, c'est une école d'ouverture à l'autre, d'écoute. Je ne connais pas une seule personne sortant d'une école nationale, sincèrement, hein, peut-être qu'il y en a, hein, mais qui, après, ne trouve pas dans la vie, qui se retrouve en marge totale de la vie sociale. Voilà, c'est-à-dire que des gens font... Et ces 20%-là, le fait d'avoir cette licence, bah, peuvent aller faire un master à Berlin et un doctorat à Madrid, s'il a envie. Donc je trouve qu'effectivement, les accords de Bologne sont une très très bonne chose. Après, c'est l'interprétation nationale, on pourra en reparler plus tard, qu'on en fait, qui est mauvaise. Mais sinon, c'est une très belle chose. Donc, et je suis très heureux d'avoir entendu Philippe, parce qu'on est dans un endroit, on va travailler de toute façon, on va travailler ensemble. Et Philippe, qui est aussi un praticien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait 30 ans de... C'est un chercheur, il est aussi chercheur en médecine, c'est vraiment un penseur du théâtre. Et je suis très heureux de l'accueillir à l'école, mais je vais aussi l'accueillir, parce que moi, quand j'étais à l'école, j'ai eu la chance de travailler avec lui, même si moi j'étais Je travaillais sur d'autres projets professionnels en même temps. J'étais un peu tardif dans la profession. Je suis arrivé à 26 ans dans une école nationale. Et donc, pour vivre, je jouais aussi à côté. J'animais déjà des ateliers, etc. Donc, j'avais la liberté par Michel Touraille de ne pas assister à tous les cours. Mais j'avais travaillé comme ça avec Philippe sur le clown. Parce que c'est un clown, Philippe aussi. Donc, il interviendra à l'école comme artiste et comme chercheur et comme professeur, mais aussi comme artiste. Et donc, je suis très heureux d'entendre ce qu'il dit, parce qu'effectivement, il faut qu'on harmonise, mais en gardant véritablement fortement nos spécificités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une tendance à vouloir tout mélanger. C'est-à-dire qu'on garde, nous, nos spécificités de travail empirique, heuristique, travail autour de l'acteur, du plateau, de la création. C'est-à-dire que nous, on dépend du ministère de la Culture. Et on en a parlé dans une tribune dans Libération, les 53 directeurs des écoles d'art qui dépendent de la culture, du ministère de la Culture, leur spécificité risque un peu d'être mise à mal si on ne fait pas attention. C'est-à-dire que nous, c'est la culture du projet. On travaille autour d'une création. Il se trouve que là, cette année d'ailleurs, au Printemps des Comédiens, Cyril Test, un metteur en scène, vidéaste, cinéaste, va faire une performance filmique avec, et ça c'est très bien, deux élèves en master de l'université en dramaturgie, deux élèves des Beaux-Arts, donc voilà. Mais autour d'un projet artistique. Donc, on appellera ça une mise en situation professionnelle ou carrément des spectacles. Parce que moi, je crois que nos écoles d'art dramatique doivent, nos 10 écoles nationales d'art dramatique, doivent se concentrer autour, trouver le lien entre la formation et la création. C'est sincèrement la différence que nous avons avec l'université, qui est un lieu de découverte, d'ouverture au monde, de découverte des différents métiers du théâtre. Là, je parle de la licence, effectivement, des 3 ans pour la licence. Et nous, c'est les 3 ans pour avoir le DNSPC, Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien. Tout ça est très pompeux, mais parce que ça, c'est honorifique. Ce n'est pas en arrivant avec un diplôme qu'on va jouer dans une mise en scène. Mais ce qui est le plus important, c'est le partenariat qu'on a avec l'université qui fait qu'ils ont une licence en art du spectacle. Voilà, donc ça c'est primordial.
Gradia, tu voulais intervenir,
je te voyais brûler. Vous avez cité à 2 reprises les accords de Bologne, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus c'est quoi les accords de Bologne?
Oui, ce sont des accords qui ont été... Ce sont des accords européens qui replacent l'équivalent, entre autres, l'équivalence des diplômes dans une perspective d'harmonisation européenne, afin que lorsqu'on passe d'un pays à l'autre, on n'ait pas à repasser des diplômes pour pouvoir les utiliser ou les valoriser dans le pays où l'on se rendrait. Ce sont aussi des accords qui facilitent la circulation des étudiants et des enseignants. Et qui permettent qu'on puisse s'inscrire indifféremment dans telle ou telle université chaque 6 mois, par exemple, et de valider dans cette université des crédits, enfin les points, si vous voulez, qui permettent d'accumuler les points nécessaires à l'obtention des diplômes d'un pays à l'autre. Et également les enseignants. Moi, je vais de temps en temps, là, j'étais à Prague récemment pour donner des cours à l'université Saint-Charles ou à Évora, au Portugal, ou voilà, enfin je me déplace comme ça et je peux rencontrer des collègues chercheurs, parce que j'aurai peut-être l'occasion aussi de parler de notre travail de recherche qui est aussi très très important, puisqu'en France nous sommes à la fois enseignants et chercheurs. Alors c'est ça les accords de Bologne, et qui ont, je suis tout à fait intéressé par ce que dit Richard, parce que effectivement j'ai eu l'occasion moi d'apprendre comme praticien. Moi je viens du cirque, donc je suis un saltimbanque qui a vécu complètement en marge d'abord pendant 15 ans, puis ensuite qui a gravi les échelons de la reconnaissance institutionnelle. Avec le recul, je me demande si c'était une bonne chose. Je crois qu'on vivait beaucoup mieux d'une façon complètement itinérante et libérale au sens noble du mot, libre, c'est-à-dire que quand on s'est mis à devoir devenir des petits entrepreneurs parce que nos tutelles nous le demandaient, mais on finit par faire 80% d'administration et de gestion et puis 20% d'art, donc ça pose question, hein, cette exigence de l'institution à industrialiser ou rendre des structures créatives, productives. C'est une vraie question, ça. Bon, enfin, bon, je digresse un peu. Mais j'ai appris là, en tout cas, que c'était capital, parce que j'ai eu la chance d'avoir un parcours un peu atypique. Richard vient des maths, c'est ça, Richard?
Oui, c'est ça, voilà. J'ai fait une maîtrise en mathématiques.
Voilà. On a des parcours un peu atypiques et c'est vrai que la sécurisation du parcours professionnel, c'est essentiel. C'est essentiel. Mmh. Parce que on forme, moi je vais dire une chose qui est un peu un pavé, dans un petit caillou dans la flaque, c'est on forme trop de jeunes en ce moment. C'est-à-dire que le marché est saturé, le marché de l'art est saturé. Donc il faut former des jeunes gens. Il faut faire comme disait Bria Savarin, nous ne sommes pas difficiles, nous nous contentons du meilleur. Alors formons les meilleurs, formons peu de jeunes gens et donnons-leur les connaissances professionnelles, les compétences professionnelles, c'est ce que vous faites au conservatoire.
C'est ce qu'on fait à l'école.
Et puis donnons-leur aussi des connaissances culturelles et permettons-leur d'ouvrir leur esprit. Et ce diplôme national supérieur professionnel de comédien, comme il en existe pour la danse, pour la musique, pour le cirque aussi, et le lien avec l'université est quelque chose d'excellent parce que ça va donner à nos jeunes d'abord l'occasion d'affermir leur motivation, c'est-à-dire qu'à l'université, ben, on a le temps de réfléchir, de voir si c'est ça ou ça ou ça qu'on va faire. Nous aussi, en troisième année, on se réunit autour d'un spectacle, les jeunes montent un spectacle en situation qui ressemble à une situation professionnelle, mais le but n'est pas de les former professionnellement, mais de leur faire voir qu'est-ce que c'est que vivre pendant 6 mois autour d'une réalisation théâtrale. Parce que sinon, on pourrait se dire, si on passe une licence de théâtre sans jamais avoir vécu ça, à quoi ça sert?
Ce qui est primordial pour les métiers qui entourent.
Oui,
c'est-à-dire, il faut avoir connu ce que c'est que la création pour être un administrateur.
Absolument. Et pour se faire aussi une idée de ce que c'est, affirmer sa motivation. Donc les deux sont très complémentaires, d'autant que dans beaucoup de pays d'Europe, les deux se font en même temps. Quand on rentre dans certaines universités en Europe, on a l'impression d'être au conservatoire et on est à l'université. Ou on rentre dans le département art du spectacle de telle université et on a l'impression d'être au conservatoire. Et les jeunes préparent en même temps les deux choses. Donc il ne faut pas non plus pénaliser nos jeunes en leur permettant, quand ils arrivent dans le milieu professionnel, d'être au même niveau que leurs collègues européens.
Tito, tu voulais intervenir?
Non, c'était juste que c'est comme ça, par exemple, au Portugal. Ça s'appelle école supérieure de cinéma, etc. Et c'est la même école qui forme aussi bien les acteurs que les cinéastes, etc. Et je trouve ça très, très bien. Parce que moi, j'ai toujours été pour qu'il y ait des passerelles entre les cours. Par exemple, une chose qui m'a choqué quand je suis arrivé en France, c'est que les gens allaient en BTS et après c'était une voie de garage, quoi. Soit tu fais ce que t'enseignes au BTS, soit tu peux plus rien faire parce que tu peux pas aller ni à l'université ni rien du tout. Et moi, je venais justement d'un système où les gens, c'était récent d'ailleurs, parce que c'était un grand ministre qui a fait ça. C'est-à-dire, les gens faisaient par exemple l'école commerciale, mais après pouvaient entrer au lycée, et ainsi de suite. Et donc, toujours des passerelles. Et j'ai vu des gens avec beaucoup de bonheur, et aussi parfois des gens, par exemple, à difficulté au niveau de l'argent, par exemple, aller à l'école professionnelle, mais après aller au lycée et suivre avec l'université, etc. Donc, je suis beaucoup pour ça. Et puis, il y a cet aspect-là que je trouve très important, c'est-à-dire la culture générale, être au début un petit peu touche-à-tout pour voir comment ça fonctionne et après se spécialiser et devenir quelqu'un de professionnel, vraiment sérieusement professionnel. Mais alors, à ce moment-là, être vraiment sérieux. Parce que moi, je pense que cette histoire, comme maintenant, même déjà quand on sort du primaire, déjà on veut nous orienter professionnellement. Je trouve ça abominable. Abominable. Donc, ce n'est pas ça, garantir du travail aux gens. Ce n'est pas ça, former des gens pour du travail. C'est leur donner les moyens d'être quelque chose et après, leur dire, bon, voilà, mais maintenant, tu es bon à ça, ça, ça. Vas-y, fais ça. Et là, je vais te donner un enseignement qui va te permettre d'être un bon professionnel là-dedans. Mais quand on a la maturité pour le devenir, et pas avant, pas à 12 ans, pas à 14 ans, et même pas à 17 ans, je trouve que c'est trop tôt.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Tito. Je me permets de te tutoyer, mais bon,
oui.
On se croise peu de fois, mais on s'apprécie beaucoup. Non, mais je ne sais pas où en sont les politiques culturelles exactement là-dessus de l'enseignement, mais effectivement, nos ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont là pour c'est terrible de dire ça, on accompagne des êtres à s'épanouir et à avoir une culture générale, à connaître un peu le monde, à avoir une connaissance du monde, et effectivement. que c'est primordial. Parce qu'avant de faire des techniciens, des métiers, c'est être un être humain, d'une certaine manière. Donc, effectivement, ce qu'on appelait les troncs communs, c'est primordial. Et venir plutôt à une spécialisation. Alors, par contre, par rapport à ce que tu disais au début en parlant des universités au Portugal, là, nous, on doit travailler avec une université à Barcelone, etc. Moi, en tant que directeur d'une des 10 écoles nationales, nous, on a 100 comédiens, 150 chaque année qui sortent. Donc, on est dans une... On est un peu des écoles d'excellence, on va dire. Effectivement, comme disait Philippe tout à l'heure, on prend les meilleurs. Voilà. Et on essaie de les accompagner au mieux. On a une très bonne formation. Si on regarde le paysage contemporain théâtral, on a beaucoup de gens qui sont sortis des écoles nationales. Moi, par contre, je trouve ça primordial de faire des passerelles. Mais j'aime beaucoup la taille humaine de l'enseignement artistique. Et j'aime beaucoup l'autonomie pédagogique, artistique et financière de ces écoles. Parce qu'aujourd'hui, vont être peut-être un peu mises à mal, puisque l'enseignement supérieur, dont dépendent les universités, devrait être pilote de tous les enseignements. Je parle au nom de mes collègues aussi, je dois les voir bientôt à Paris, mais je pense que c'est un peu... notre attachement au ministère de la Culture est primordial, c'est-à-dire justement à la culture du projet, à travailler autour d'une création. Et évidemment que là, je vais même faire un partenariat avec la faculté de médecine, donc ça c'est passionnant, mais c'est parce qu'on est une petite équipe, avec 4 personnes qui dirigent cette équipe. Tout le reste, c'est des artistes et des élèves comédiens. On a un petit fonctionnement à taille humaine. On connaît tous les comédiens nous connaissent tous. Ça, franchement, je trouve qu'on a un avantage fort. En étant allé à Barcelone voir l'Institut du Théâtre à Barcelone, où là, on a une espèce de monstre où tous les métiers sont représentés du théâtre, et l'université présente aussi. Notre force, c'est aussi notre taille humaine, notre rapport humain à l'élève, le fait qu'effectivement on ait un accompagnement de formation, parce que qu'est-ce que c'est que la formation de l'acteur, je serais bien en mal de vous l'expliquer, c'est chaque être que l'on rencontre, chaque rencontre avec des artistes, et je vais dire qu'il y a autant d'enseignement de l'acteur que d'élèves comédiens, que d'acteurs, autant de manières d'apprendre le métier qu'il y a de metteurs en scène et d'acteurs. Donc on ne peut pas... c'est-à-dire des critères d'évaluation qui nous seraient imposés par des gens derrière des écrans qui ne connaissent rien à l'enseignement artistique, on ne peut pas l'accepter. La seule manière dont on pourrait l'accepter, c'est de regarder, c'est ce à quoi je vais m'atteler, regarder finalement les gens sortis de cette école, qu'est-ce qu'ils deviennent 10 ans après. Et par contre, voilà. Donc le danger de mélanger, c'est-à-dire, je veux surtout pas, mais moi quand j'entends parler de brassage, c'était Anne Fraisse qui était présidente de l'université, une personne que je ne connais pas, mais quand j'ai regardé l'édito du théâtre de la Vignette où elle explique qu'elle va être pilote dans l'enseignement, dans l'insertion professionnelle, je me dis qu'elle est hors des compétences de l'université. En tout cas en ce qui concerne les acteurs et les metteurs en scène. Et qu'elle n'est pas, que ce n'est pas la mission de l'université. Pour les acteurs et les metteurs en scène. C'est la mission de nos écoles nationales. Et après de travailler, moi je m'entends très bien avec Didier Plassard, Gérard Liebert, c'est quelqu'un qui a été mon professeur, je m'entends très bien avec tous ces gens-là, et j'ai envie qu'on crée de multiples passerelles avec les Beaux-Arts, avec l'université, mais que nous on garde que cette petite maison Louis Jouvet continue à faire son travail très pointu, très singulier, très particulier, de la formation de l'acteur. Et que chaque école nationale ait sa spécificité d'enseignement. Donc il faut faire très attention aux évaluations, aux critères d'évaluation, et qui évalue et comment on évalue un artiste. Parce que ça, c'est très difficile d'évaluer un artiste. La seule chose qu'on peut regarder, c'est 10 ans après, qu'est-ce qu'a fait cet artiste? Est-ce qu'il est toujours artiste? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a inventé? Donc voilà, donc nous, notre position, enfin en tout cas je vais parler de la mienne, pour ne pas parler au nom de mes confrères, qui sont 10 en France, c'est primordial. Et voilà, et c'est en gardant notre spécificité qu'on peut créer des passerelles. Là, j'ai vu le doyen de l'université, de la faculté de médecine, et avec Serge Wachnin, qui est aussi un professeur d'université, mais qui est un praticien, on va créer, dans l'enseignement du médecin, on va créer un atelier qu'on cherche, dont on cherche le nom, mais qui a déjà eu depuis 6 ans. C'est-à-dire qu'on forme des cancérologues. Il y aura une unité d'enseignement qui parlera de la présence du médecin, de l'humanisation du rapport praticien-patient. Parce qu'aujourd'hui, on forme des techniciens en médecine. Et mon père est décédé de ça. Je connais plein d'amis, évidemment. Le cancer est quelque chose qui... Donc, on a commencé avec des cancérologues pour leur expliquer que l'annonce de la maladie, le rapport humain qu'on a avec le malade, avec le patient, la présence du médecin, qu'est-ce qu'il représente, comment... L'annonce de la maladie, l'annonce d'une rechute ou d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie, ça s'inscrit fortement dans l'être. C'est-à-dire que dès l'annonce... il y a quelque chose de très fort qui s'est inscrit dans le malade qui va faire que peut-être ça va jouer sur sa guérison ou pas sa guérison. C'est passionnant. Et avec des acteurs qui vont interpréter face à des médecins en formation le malade, qui vont interpréter la famille, qui vont interpréter de manière... Alors c'est fort, hein, c'est des expériences assez fortes pour les acteurs comédiens qui sortent de l'école. C'est des gens uniquement sortis de l'école parce que ça peut être assez... Ils vont jouer le déni, ils vont jouer des crises de larmes, ils vont jouer de l'agression. Et les quelques laboratoires qu'on a fait comme ça avec ces médecins, les médecins en sont sortis en disant « Jamais plus, je travaillerai de la même manière. » C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas annoncer la maladie à une femme qui a un cancer du sein à 20 ans, qu'à quelqu'un qui en a 60, qu'à quelqu'un qui est dans telle catégorie socio-professionnelle qu'à un autre. Il y a un accompagnement de la médecine personnalisée qu'il faut. Donc on est en train, Montpellier va être pilote de cette recherche-là. Pardon hein, de dériver, mais c'est pour montrer que...
Ouais, c'est tout à fait intéressant. Voilà. On va faire une autre petite respiration musicale avec Anna Karina en duo avec Philippe Catherine. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, ô mon amour.
Jamais je ne te dis que je t'aimerais toujours. Oh mon amour, jamais tu m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés à nos baisers. Combien de mots d'amour?
Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours. Oh mon amour, jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous laisser nous réveiller tous les matins, aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit et ne désirer rien de plus que ce si quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments se sont liés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Des sentiments si fous et si violents que tous les mots d'amour connus et inconnus. Des sentiments si fous et si violents, des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru.
Jamais Ne dis jamais que tu m'aimeras. Toujours.
Oh mon amour.
Jamais ne me promets de m'adorer.
Toute la vie.
N'échangeons surtout pas de tels serments. Me connaissant.
Te connaissant.
Gardons le sentiment que notre amour, au jour le jour, que notre amour est un amour sans lendemain.
Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9. Et je suis toujours avec Richard Mitou, le directeur de la Maison Louis Jouvet, et Philippe Goudard du département Art du Spectacle à Paul Valéry. Alors avant de parler pour ce dernière partie d'émission, il nous reste un peu plus de 10 minutes, avant de parler peut-être de l'avenir du métier de comédien, je pense que Philippe, que vous vouliez revenir un petit peu sur le côté recherche aussi de l'université.
Oui, bah, pour moi c'est lié d'ailleurs. La recherche et l'avenir sont tout à fait liés. Recherche et développement, on dit dans les entreprises, et je pense que alors en France, à l'université, nous sommes ce qu'on appelle des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'on est à la fois, on a une mission pédagogique que j'ai, sur laquelle j'ai donné quelques éléments d'information tout à l'heure, notamment au niveau d'un socle de connaissances dans certains domaines et d'une culture dite générale, mais en fait elle est plutôt en fait spécifique dans un certain domaine, la plus large possible. Et puis nous sommes chercheurs, c'est-à-dire que nous devons un travail de résultats sur des domaines extrêmement précis et qui occupent une large partie de notre temps et même parfois plus que le temps d'enseignement. Alors, quoi faire dans la recherche en art du spectacle? Se projeter dans un avenir, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est évidemment de regarder ce qui s'est fait dans l'histoire, dans le passé, c'est de comprendre ce qui se fait maintenant et pourquoi ça se fait. Donc on est dans des domaines économiques, politiques, sociologiques, esthétiques bien sûr, et puis de comprendre qu'est-ce qui va se faire, parce que la situation est critique en ce moment. Alors là, je peux vous parler de mon travail de recherche. Je m'intéresse beaucoup sur la base des statistiques nationales des résultats du département des études et prospectives du ministère de la Culture, par exemple. Et quand on observe les chiffres, les statistiques, on observe un changement du paysage, de la démographie. Vous voyez, je fais un lapsus révélateur. Non pas de la démocratie, mais de la démographie des artistes, avec une sorte d'inversion du champ, ou enfin une tendance lourde qui est, si on observe les chiffres des métiers de la culture et des métiers artistiques, parce que la culture c'est une chose, l'industrie culturelle en est une autre, les politiques culturelles en est une troisième, et l'art est encore autre chose. Hein. Et on a tendance à mettre un peu tout dans le même chose, avec dans un grand baquet de la communication. D'ailleurs, notre ministère s'appelle le ministère de la culture et de la communication. Alors, nous observons qu'il y a des territoires un petit peu différents. Remettons un petit peu de visibilité là-dedans. Et quand on observe ça, on voit que les métiers culturels, ça s'explique très très bien par l'histoire récente, les politiques culturelles en France, la décentralisation, la montée en puissance des responsabilités locales, régionales et des institutions territoriales. Et on voit qu'on a beaucoup beaucoup de gens qui vivent de l'art. Et ça rejoint la question de l'intermittence aussi. Dire que les intermittents, c'est pas juste, ça coûte cher, etc. Est-ce qu'on se demande si les médecins libéraux, que je sache, vivent de la solidarité publique, puisque 70% de nos dépenses médicales, tu parlais de médecine tout à l'heure, sont prises en charge par la collectivité. Les enseignants ou d'autres métiers, nous avons des mois légitimes de congés. Est-ce qu'on va nous demander de nous inscrire à la NPE comme les intermittents, quand on ne travaille pas, non. Donc, il y a un discours complètement tronqué là-dessus qui fait qu'aussi, si les programmatrices ou programmateurs de scène nationale ou de petits théâtres de communautés de communes devaient payer les spectacles au prix de revient, sans l'intermittent, c'est impossible. C'est-à-dire qu'ils perdraient tous leur emploi. Et parfois, le chercheur en art du spectacle se rend compte qu'on ne défend pas forcément l'emploi, le statut social et économique des artistes. Mais il n'y aurait pas de politique culturelle de diffusion du spectacle vivant, il n'y aurait pas d'études théâtrales ou chorégraphiques ou en cirque s'il n'y avait pas les artistes. Il faut bien qu'il y ait des gens qui décident, des hommes et des femmes, de consacrer leur vie, de prendre le risque d'une vie d'artiste pour que toute une économie qui dépasse largement l'économie culturelle, parce que si vous allez... Moi, je joue souvent à Avignon, je me produis souvent à Avignon depuis des années, périodiquement, on voit que cette ville, elle vit sur le festival. Quels sont ceux qui vivent le moins bien là-dedans? Les artistes, ouais, très clairement. On est dans quelque chose qui est à revoir. On est dans un pays qui aime évaluer. Richard l'a dit tout à l'heure. Moi, je suis pour que les gens qui ont des compétences évaluent leurs pairs. Quand j'ai été formé à la médecine, puisque je vous disais, j'ai un parcours un peu atypique, ben c'est mes patrons qui m'ont déclaré que j'étais un médecin. Ce n'est pas un fonctionnaire de la santé. Voyez-vous, c'est un chirurgien ou un médecin. Voilà. Et puis quand Alexis Grus m'a dit « voilà, tu es un homme de cirque », c'était Alexis Grus. Donc, ce n'était pas quelqu'un non plus du ministère, je ne sais pas quoi, de l'agriculture. Bon, parce qu'à l'époque, le cirque dépendait du ministère de l'Agriculture. Donc, moi, je suis pour que les gens qui s'y connaissent forment et évaluent les jeunes. Ça, parce que comment sinon transmettre quelque chose? Parce que quand on est en formation, qu'elle soit à la recherche, qu'elle soit à la culture, qu'elle soit aux connaissances, qu'elle soit au métier, il y a quelque chose d'indicible qui se transmet d'enseignant, de maître à élève. Moi, j'ai appris beaucoup de mes maîtres en les voyant faire. Voilà. Alors, si quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, il a un peu du mal à transmettre puisqu'il ne sait pas faire.
Bien sûr.
Donc, voilà. Alors, cette question-là est dominée par la question de l'évaluation. Nous sommes aussi, nous, en permanence évalués à l'université. On n'arrête pas d'être évalués. Moi, dans mon parcours universitaire, je suis évalué tout le temps. Voilà. Alors, pourquoi pas? Mais que cette évaluation, elle soit entre les mains de personnes qui connaissent ces valeurs-là. Parce que sinon, on marche sur la tête. Et puis, Philippe Cobert disait l'autre jour, un artiste que j'aime beaucoup, je ne suis pas le seul pour lui, heureusement, il disait, il disait aux journalistes qu'il interviewait, vous parlez de culture, là, vous ne parlez pas d'art. Hein? Et il avait raison de poser, ce n'est pas méprisant ni pour la culture ni pour l'art, mais il remettait les choses à l'endroit. Et il disait, les artistes sont aujourd'hui le prolétariat de l'industrie culturelle et je partage son avis. Donc il faut faire attention à ça, il faut respecter les gens qui font l'art, qui prennent ce risque-là, il faut sécuriser leur parcours pour les plus jeunes, puis il faut surtout demander aux plus jeunes qu'est-ce qu'ils rêvent pour dans 20 ans, quand je serai mort, qu'est-ce que les plus jeunes, j'ai une fille par exemple qui est musicienne en formation, elle a fait l'université, le conservatoire, tout ça, et bien ce qui m'intéresse c'est de savoir comment elle rêve son avenir, parce que moi, je fais partie d'une génération gâtée où on disait « just do it », on le fait, on l'a fait, et puis on a réussi ce qu'on voulait faire, parce que le monde était autre. Qu'est-ce que veulent ces jeunes gens? Et par exemple, on a un peu le même problème avec la diffusion des œuvres artistiques. Je suis aussi élu à la SACD, donc je parle aussi un peu en tant qu'auteur, que dans la grande distribution. Alors moi, quand j'entends les agriculteurs parler de la distribution de leurs produits, je pense beaucoup qu'il y a des choses très communes avec les artistes. Et ils nous disent, le supermarché, un tel, ça ne va pas. Donc, on est obligé d'inventer d'autres circuits. Et je pense que les jeunes gens ont tout intérêt à réfléchir sur une autre économie de leur art. Et moi, en tant que chercheur, je suis très, très à l'écoute. Et puis, j'essaye aussi de partager des compétences, des connaissances avec d'autres chercheurs pour essayer de faire avancer un petit peu les choses dans ce sens. Le système que nous vivons actuellement est un système hérité de choses formidables, de Gaulle, Malraux. Enfin, moi, je suis un pur produit de la décentralisation culturelle, par exemple, hein, vraiment, en France. Mais maintenant, il va y avoir quelque chose d'autre à inventer. Et on est dans un système un peu bâtard, un peu en équilibre, où on nous parle de management, de la culture, alors que nous, on parle d'art, d'émotion, d'esthétique, de rencontre de l'autre. Et il va bien falloir un jour que les jeunes gens prennent ça en main, que je ne sais pas quoi, qu'ils s'insurgent ou qu'ils inventent autre chose, mais qu'ils inventent une nouvelle façon. Et nous, les chercheurs, on peut leur donner peut-être des informations ou les aider à réfléchir à ça.
Je vois qu'il nous reste à peu près une minute avant la fin de l'émission. Mais je vais demander à Richard s'il veut avoir le mot de la fin.
Allez, conclusion. Non, je suis très, très, très heureux d'avoir entendu ce que disait Philippe, évidemment, on est dans un endroit, dans un moment comme ça, où il faut faire très très attention à l'artiste qui est devenu, effectivement, qui fait vivre énormément de monde autour de lui, que les métiers, en fait, bon, sur, il n'a peut-être pas donné de chiffres, moi, peut-être qu'ils sont faux, mes chiffres, et j'espère qu'on m'en tiendra par rigueur, mais en gros, dans les années 70, il devait y avoir dans les maisons de la culture un rapport 30% de fonctionnement, 70% pour les artistes, c'est un rapport qui s'est inversé aujourd'hui. Donc, voilà, après, réfléchissons comment, c'est la faute de tout le monde est responsable, y compris les artistes à la tête de ces maisons. Donc il faut juste aujourd'hui on réfléchisse à comment on va concevoir l'avenir politique et de nos politiques culturelles et surtout la défense des artistes. Après, Philippe m'a parlé un peu de ce que l'accompagnement des anciens circassiens, il y a beaucoup de choses, et ne pas oublier que l'artiste est au centre, et surtout quand on lit des journaux comme à l'automne va être révisé le statut des intermittents du spectacle, Figaro de lundi dernier a fait un grand titre à la une de son en écrivant le mauvais spectacle des intermittents, c'est une honte pour nos métiers. C'est une méconnaissance de ce qu'est l'artiste, c'est une honte absolue. Donc il y a eu heureusement au Sénat un rapport qui a été fait par quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais qui est autre chose qu'un artiste, et qui expliquait qu'effectivement il ne faut pas stigmatiser les secteurs d'activité entre eux. Les artistes font vivre énormément de monde, c'est quelque chose qui est bénéficiaire. Si on le regarde dans son secteur d'activité, si on regarde que les intermittents, effectivement c'est déficitaire, mais c'est une erreur de calcul. Donc j'espère qu'à l'automne, on ne va pas stigmatiser des professions contre les autres. Et Avignon 2003, c'était très bien parce que les commerçants ont commencé à défendre des artistes, et ça montrait bien que voilà, on est dans un moment où il faut être ensemble et réfléchir à tout ça sereinement.
Merci Richard Mitou et merci Philippe Goudard de nous avoir accompagnés pour cette émission un petit peu spéciale consacrée donc au métier du spectacle et à la formation de l'acteur. On retrouve l'actualité théâtrale la semaine prochaine dans Vendredi Théâtre. Très bonne semaine théâtrale à tous. Au revoir et on se quitte avec Jeanne Moreau.
Qui parlera d'elle.